5, 4, 3, 2, unité. Top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Eh oui, il y a du boulot. Bienvenue à tous dans cette auberge espagnole du mardi 27 novembre 2012. Eh bien, à présent, on va parler de toute autre chose. On reparlera de jazz un petit peu plus tard dans cette auberge espagnole avec des invitations à la clé. Mais on va écouter une interview que Vincent Ricordo, le cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank, un système de financement collaboratif. On l'a eu hier au téléphone à propos d'un débat qu'il co-organise avec d'autres partenaires entre l'économie collaborative et l'économie et classique. Pas tout à fait de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on abordera la différence entre les deux. Donc, c'est avec WeShare qu'ils organisent cette première rencontre du troisième type, entre guillemets, entre économie classique et économie collaborative. C'est aujourd'hui, ce n'est pas à Montpellier, c'est à Paris, mais peut-être qu'il y aura des enregistrements ou des captations qu'on pourra diffuser. Ça vaut le coup d'en parler. Une rencontre du troisième type qui fait référence à la troisième révolution industrielle inventée et popularisée par Jeremy Rifkin, célèbre américain. Allez sur le site de Divergence pour voir toutes les références. Un débat qui a pour but de faire se rencontrer et échanger économie classique et collaborative, Renault et Blablacar, la Banque Postale et Kiss Kiss Bank Bank, avec notamment une intervention de Neil Gorenflot, l'auteur de Share or Die et rédacteur en chef de Shareable.net, un magazine américain de référence sur l'économie du partage. Voilà, une petite interview et puis ensuite on parlera moto, mais pour l'instant, cette interview enregistrée donc hier au téléphone. On est au téléphone avec Vincent Ricordo. Bonjour Vincent.
Bonjour Montpellier, comment ça va Montpellier?
Eh ben ça va bien, depuis le mois de février où tu nous avais rendu une petite visite à l'occasion de ton apparition chez Illusion et Macadam, si ma mémoire est bonne.
Exactement.
Alors,
avec qui on entretient de parfaites relations depuis, avec qui on fait beaucoup de choses.
Voilà, et puis c'était aussi pour parler de Hague qui avait, à travers l'outil que tu as cofondé, Kiss Kiss Bang Bang, qui avait mené son projet, qu'il a mené à bien depuis, de vinyle. Mais on n'est pas là pour parler très précisément de Kiss Kiss Bang Bang, que j'invite les gens à aller voir l'article du 7 février sur le site de la radio. Mais on est là pour parler d'une rencontre du troisième type que vous organisez avec plusieurs partenaires. Une rencontre du troisième type qui organise un débat entre l'économie collaborative et l'économie classique. Et pour en parler, pas mal de têtes d'affiche, j'ai envie de dire.
Écoute, oui, pas mal de têtes d'affiche. L'économie collaborative est en plein essor, en pleine explosion, que sur la colocation, le covoiturage et un petit peu partout, que ce soit chez nous, aux États-Unis. C'est vraiment une économie qui est en plein boom, qui a trouvé son nom maintenant, puisqu'on l'appelle l'économie collaborative. Et il se trouve que cette économie collaborative, par essence, elle est un peu disruptive par rapport à l'économie classique. Et du coup, pour la première fois, demain, on va mettre sur scène à la fois des acteurs de l'économie classique et des acteurs de l'économie collaborative pour qu'un débat puisse s'installer et pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Alors pour organiser ou commenter la soirée, on a Neil Gorenflot qui vient des États-Unis, qui est le rédacteur en chef ou l'éditeur d'un site qui s'appelle Shareable, qui est le plus gros média sur l'économie collaborative dans le monde. Et donc qui vient orchestrer un petit peu la soirée. On organise également cet événement avec WeShare, qui est la plateforme la plus costaud aujourd'hui en France sur l'économie collaborative au sens large, que je vous invite à aller visiter. C'est vraiment un recensé très complet de ce qui se fait dans l'économie collaborative sur tous ces segments, que ce soit le crowdsourcing, le crowdfunding, le covoiturage, enfin toute l'économie du co. Et il y aura également qu'on appelle chez nous une battle de créateurs, c'est-à-dire trois projets qui vont venir présenter leurs projets devant toute l'assistance, qui sont trois projets dédiés à l'économie collaborative, et celui qui recueillera le plus de votes pendant cette soirée se verra en fait sponsorisé, va-t-on dire, par la Banque Postale, qui contribuera à hauteur de 50% de sa collecte de fonds. Mmh. Du coup, on va réunir vraiment tous les acteurs possibles, imaginables, demain, de l'économie collaborative à Paris pour la première fois, et de façon très variée, et pour ouvrir justement cette soirée et pour faire en sorte que cette économie puisse discuter avec l'économie classique ou l'économie de l'ancien monde, on va mettre tout ça, tout ce monde-là sur la même scène pour essayer d'en sortir un maximum d'informations sympa et surtout de prospectives.
Tout ça dans le cadre finalement d'une référence à une troisième révolution industrielle popularisée par Jeremy Rifkin, un Américain qui s'est illustré dans son influence sur les milieux politiques et puis dans ses prises de position, que ce soit par rapport à la guerre au Vietnam ou aux compagnies pétrolières ou d'autres. Donc quelque part, c'est des initiatives qui font un peu boule de neige en ce moment. On a l'impression que ce soit dans l'informatique, les géants qui commencent à se dire « Ouh là là, il faudrait qu'on suive un peu le sens du vent parce que sinon on passera pour des... » Je ne vais pas le préciser. Et on a l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie, un petit peu, étant donné le contexte de crise dont on nous serine les oreilles.
Oui, alors contexte de crise, dans les années 80, on nous disait déjà que c'était la crise, en fait. 20 ans après, on nous disait que c'était les années fric, donc on ne sait jamais vraiment où est la crise. On ne sait pas si actuellement on vit une crise de l'économie fondamentale et classique ou une crise de confiance et de l'avenir, mais une chose est sûre, c'est que parallèlement à ça,
ou une économie de la crise.
Elle croît à une vitesse grand V. Il y a des acteurs qui naissent tous les jours dans l'économie collaborative. C'est une vraie alternative à l'économie classique et non pas une économie d'ailleurs qui vient en frontale complètement toujours avec l'économie classique. Elle est disruptive par essence, elle vient refonder ou reformater les fondamentaux, faire des propositions sur une organisation de la société et de l'économie complètement différente. Au lieu d'avoir des gros schémas pyramidaux très patriarcaux issus de la première, la deuxième révolution industrielle, on va tout droit vers une organisation beaucoup plus latérale où chacun dans son coin pourra apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant appartenir à des groupes gigantesques, monopolistiques avec tout ce que ça a pu entraîner comme on l'a appris à nos dépens ces dernières années. Donc c'est une vraie vision différente. C'est vrai que vous citez Rifkin, c'est un peu le pape ou l'évangéliste de cette économie ou de cette révolution industrielle. Et c'est vrai qu'on est évidemment très en ligne avec ses analyses, très en ligne avec sa philosophie, et on s'inscrit tous dans le prolongement de ses pensées et de ses perspectives.
Alors ce mois de novembre 2012 qui se termine, c'est en France le mois de l'économie sociale et solidaire, ouais. Qui est une notion bigrement ancienne, qui a eu à peu près une paire de siècles. Est-ce que finalement, les acteurs modernes de la collaboration ou d'une économie collaborative, finalement, ils remettent aussi au goût du jour des fondamentaux, et puis peut-être qu'ils ont des outils qui font qu'on est plus visible?
Oui, alors il y a une vraie différence de philosophie. C'est-à-dire, si on devait situer l'économie collaborative sur l'échiquier des diverses économies visibles et repérables, on aurait à gauche, qu'on peut faire plutôt à droite d'ailleurs, l'économie classique est devenue ultra-financière en direction des actionnaires avec des systèmes pyramidaux toujours de plus en plus gros et de plus en plus monopolistiques, avec un seul objectif qui est le profit. Et puis de l'autre côté, donc plutôt à gauche, on aurait l'économie sociale et solidaire qui existe depuis très longtemps, qui elle a une recherche systématique d'impact social quasi exclusif, avec des lourdeurs quand même assez importantes, souvent, notamment au niveau statut, et qui réfute un petit peu les notions de business au sens large. Et du coup, l'économie collaborative viendrait se positionner, on va dire, entre les deux, avec des vraies valeurs communes et véritablement en commun avec l'économie sociale et solidaire, mais en possession d'outils complètement différents et avec une philosophie qui est quand même de fabriquer des entités et des groupuscules qui peuvent travailler les uns avec les autres de façon latérale pour sortir des modèles et des business models qui soient fiables et qui soient pérennes dans le temps, qui soient constructeurs de valeurs, pas seulement sociales, mais également économiques. Donc du coup, on est très proche de valeurs, très proche des valeurs de l'économie sociale et solidaire, et on essaye de garder quand même ce qui potentiellement aurait pu faire la richesse d'une économie libérale, à savoir l'autonomie complète, la non-appartenance à des groupuscules bien identifiés et sclérosants. Donc c'est un peu, on va dire, je crois, assez sincèrement, la prise en compte de ce qu'il y a de mieux dans deux économies ou deux pensées qui s'opposent vraiment frontalement, avec du coup un amalgame en fait évident, qui est très lié à ce que vous disiez tout à l'heure, à l'émergence évidemment du web, puisque c'est évidemment l'Internet et le web qui permet aux gens de se mettre en contact les uns avec les autres, de agrandir les réseaux par le peer-to-peer, et du coup de pouvoir fonctionner en faisant fi des intermédiaires classiques. Donc on est vraiment, je pense, au confluent, ou en tout cas vraiment très central entre l'économie sociale et solidaire à gauche et l'économie, on va dire, ultra-libérale, débridée, non régulée sur la droite.
Comme ça a été dit tout à l'heure, cette rencontre a lieu à Paris ce 27 novembre, au Petit Bain pour ceux qui y seront. Est-ce qu'il y aura une captation audio et vidéo de ces interventions pour éventuellement ceux qui seraient très intéressés, mais qui seraient par exemple à Montpellier ?
Alors, est-ce qu'il y a une captation audio et vidéo demain de l'événement ? Je crois que oui. Par contre, est-ce qu'on a une adresse sur laquelle on peut... Est-ce que c'est streamé ou pas ? J'ai un doute. Non, il y aura une captation, mais il n'y a pas de streaming.
Ouais, mais...
Par contre, donc, on pourra communiquer les liens
Posteriori.
Demain soir, ou après-demain matin pour les gens qui sont dans le sud et qui ne pourront pas venir nous voir à Paris.
Et voilà, ils n'auront plus qu'à venir faire un tour sur le site de Divergence. On relayera toutes ces informations. Vincent Ricordeau, merci beaucoup. On vous souhaite à tous que ces rencontres se passent le mieux du monde et que ça fasse avancer le schmilblick de cette troisième révolution industrielle.
Eh bien, écoutez, merci à vous de l'attention que vous portez toujours à tout ça. Et on vous embrasse de Paris et à très bientôt.
Excellent titre qu'on écoutait, For the Love of Money. À présent, eh bien, on va parler de l'actu motarde de la Fédération française des motards en colère avec Jean-Michel Sénéchal. L'actualité, ça commence par la FFMC qui s'affiche contre l'obligation du brassard rétro-réfléchissant. Dans deux mois, s'il n'est pas abrogé d'ici là, le décret du 3 janvier 2012 obligera les motards à porter des éléments rétro-réfléchissants supplémentaires sous peine d'être passible de verbalisation et de perdre 2 points sur leur permis de conduire. Pour alerter les motards sur cette mesure, d'ouverture, la FFMC publie 4 affiches et lance une pétition en ligne. Jean-Michel, bonjour.
Oui, salut Gilles, merci de nous recevoir. Oui, ça, comme tu le disais justement, en fait, nous, on n'est pas contre, les rétro-réfléchissants, on est contre l'obligation de les porter. Tu sais que ça va nous coûter 68 euros. Bon, ça, c'est de l'argent, mais c'est 2 points aussi. Mmh. Alors, pour une mesure qui est vraiment une mesurette pour nous, ça nous paraît un peu débile, quoi.
Voilà, surtout quand on voit le non-dialogue qu'il y a entre les autorités et les fabricants d'équipements et le prix des équipements, les blousons, etc., on se dit que ça serait plus facile de légiférer et de dire que tous les équipements motards doivent intégrer des dispositifs rétro-réfléchissants, parce que c'est pas vraiment une obligation. Hein. On le voit sur les tests qui sont publiés sur les équipements, ça court pas les rues, les équipements qui sont bien pensés pour la nuit.
Voilà, oui, effectivement, il y a certains fabricants qui font déjà des liserés rétro-réfléchissants. Bon, on pourrait les agrandir tout simplement, mm-hmm. et puis ils seraient quand même mieux vus, parce que là, le brassard, c'est une idée, ils veulent nous sauver la vie, c'est une bonne idée, mais enfin, nous, on aimerait bien quand même qu'on réfléchisse avec eux. Hein. Le Grenelle du deux roues a été fait pour ça aussi, qu'on réfléchisse non seulement à la sécurité du motard, mais aussi à son équipement. Mm-hmm. Donc, on a des solutions, on peut le mettre en œuvre avec les fabricants sans avoir l'obligation de le porter, quoi.
Voilà, alors parmi les comme d'habitude, avec pas mal d'humour, les affiches, par exemple, c'est « Je suis jaune, je mesure 150 cm², je n'ai aucun impact sur la sécurité des motards, mon absence coûte 68 euros et 2 points, qui suis-je ? Que suis-je ?» La réponse c'est « Je suis un piège » ou encore « Les motards attendaient un grand rendez-vous sur la sécurité routière, visiblement le gouvernement leur a posé un lapin ». Là, c'est pour illustrer le non-dialogue, même si on organise des grenelles, des machins, des trucs, finalement, des fois, c'est... Ça n'impacte pas.
Exactement. Écoute, cette campagne publicitaire a été faite par un de nos militants, toi, comme quoi nous on réfléchit quand même aussi, même à la communication. Simplement, le motard se déplace tous les jours avec son véhicule et le phare allumé. En plus des rétro-réfléchissants, on en a 4 sur les casques, donc on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Et puis ce qu'on met en avant, c'est surtout la prise en compte des deux roues. Alors quand je dis deux roues, c'est tous les deux roues, on est bien d'accord, à chaque fois je le répète, mais c'est important, c'est tous les deux roues. C'est, tant qu'il n'y aura pas un réel partage de la route, ça ne pourra pas le faire. Le motard, on pourra lui mettre n'importe quoi sur le dos. Si l'automobiliste ne veut pas le voir, il ne le verra pas. Mmh. Donc, prise en compte des deux roues, surtout.
Voilà, et puis quelque part, c'est toujours un petit peu la mode des surenchères réglementaires et des sanctions disproportionnées qui sont liées.
Voilà. En fait, on le prend comme simplement une possibilité encore de nous verbaliser, de prendre de l'argent. Quoi. Ça fait encore partie du racket.
Voilà. Le 16 octobre, les militants de la FFMC manifestaient à Montpellier justement par rapport à ça. Toujours pour, dire stop aux fausses mesures de sécurité routière qui servent plus souvent à faire rentrer de l'argent dans les caisses qu'à avoir une réelle efficacité. Là, toujours pareil, hein, y a encore du boulot à faire.
Et oui. Alors le 16 octobre, on a fait des heures sup, nous. Hein, on s'est mobilisé le soir. C'était pas tout à fait une manif. Hein, on va appeler ça une opération commando, tout simplement. Mm-hmm. On était une petite quinzaine de motards, de militants, la FFMC 34, et on s'est promené dans les rues de Montpellier. On était escorté par la police, parce que bien sûr c'était une action qui était déclarée en préfecture. Hein. Et on a tout simplement bandé les yeux avec des rétro-réfléchissants de nos grands visionnaires.
Mmh. Donc on les a statues,
les statues de Montpellier, et les ont eu le droit à un bandage d'yeux, Mao, De Gaulle, Gandhi, Moïse aussi. Et on a voulu bander les yeux de Louis XIV, qui est perché sur son cheval
au Pérou,
mais la hauteur
nous a dissuadé.
On est monté sur le piédestal quand même, mais de là à monter sur le cheval, ça paraissait un peu précaire comme action. Donc on s'est dit, on va pas se blesser quand même pour ça. Mais ouais. Enfin, on a passé un bon moment, et puis apparemment, bon, j'espère que le message est passé, et on espère, comme d'ailleurs il est dit, on n'en a pas la certitude, mais que l'éthylotest serait abandonné.
D'accord.
Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu débile aussi comme mesure, hein, pour prendre du pognon. Et puis on espère que le brassard fluo sera aussi abandonné et qu'on pourra se remettre autour d'une table et discuter avec les acteurs de la sécurité routière au niveau des pouvoirs publics pour avancer, pour qu'il y ait une réelle compréhension du deux-roues.
Mmh. Voilà, une compréhension du deux-roues et puis de la circulation en général, parce que bon, on a parfois l'impression que c'est pas vraiment le cas. Le 19 janvier 2013, le nouveau permis de conduire moto va entrer en vigueur. On a l'impression qu'on fait un retour en arrière, puisqu'on se souvient, au tout début, ça allait de A1 à A4 en fonction des cylindrées. Et là, on va revenir à un permis, on va dire, morcelé en plusieurs catégories.
Alors effectivement, bon, j'ai entendu parler de cette réforme, mais je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, il faudrait que je m'y penche un petit peu, ce n'était pas prévu aujourd'hui en fait d'en parler, sinon je me serais documenté, tu penses bien, mais effectivement on a un petit peu l'impression que c'est un retour en arrière, ça me rappelle quelques années en arrière, puisque moi c'était à peu près à l'époque où j'ai passé le permis, il y a une trentaine d'années, passé même. Nous, la réforme du permis, on est pour, à condition que ça nous apporte quelque chose de toute façon. Hein, parce que plus le motard sera informé et formé, ça, mieux ça sera. Maintenant, bon, je te dis, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il faut savoir si c'est positif ou non. En règle générale, souvent, si ce n'est pas en concertation avec les motards, c'est rarement complètement positif, quoi.
Alors pour ceux qui que ça intéresse, il y aura toujours le permis cyclomoteur AM qui s'obtiendra à partir de 14 ans avec la SSR passée en classe de 5e ou de 3e et le BSR qui passe à 7 heures avec 2 heures de théorie sur des scénarios d'accident, équipement en particulier, 5 heures de circulation. Il existe aussi le AM option quadricylindre léger, même condition mais 16 ans et un BSR passé sur un quadricycle, voiturette ou quad. Le permis AM n'est pas sanctionné par un examen et n'est pas soumis à une limite de points. Et puis le permis 125 A1, rien de changé, toujours 16 ans et une moto de 125 cm3 de 11 kW maxi avec un rapport poids-puissance de 0,1 kW par kilogramme. Nouvelle catégorie, le A2, on peut le passer dès 18 ans et on ne peut passer que cela jusqu'à l'âge de 24 ans. Conduit d'une moto de 35 kW maxi, 47 chevaux et demi, avec rapport poids-puissance inférieur à 0,2 kW par kilo. De plus, si cela est obtenu par bridage, la moto dont elle est issue ne doit pas faire plus du double de la puissance obtenu. Et puis le permis moto A, accessible à partir de 24 ans ou après 2 ans de permis A2, plus 7 heures de formation complémentaire. Et puis une équivalence permis B 125, rien ne change sur la possibilité de conduire une 125 après 2 ans de permis auto, plus 7 heures de formation. Attention, il ne s'agit pas d'un permis et cette autorisation n'est pas valable partout à l'étranger. Donc voilà, ça sera début 2013, voilà, le 19 janvier 2013 que ce nouveau permis va être mis en place. On peut retrouver toutes les infos complémentaires évidemment sur ffmc34.org.
Voilà, ouais, c'est assez complexe, hein, cette réforme. Nous, ce qu'on veut, c'est que la formation soit renforcée. Ça, c'est primordial. Un jeune conducteur ne saura jamais assez bien conduire après l'obtention de son permis. C'est pour ça que d'ailleurs, la FDM développe les stages post-permis et qu'on a fait la première journée JJP, journée jeune permis, il y a une quinzaine de jours. Bon, le temps n'a pas été favorable, mais en tout cas, on s'est aperçu que les jeunes permis étaient demandeurs de formation supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont appris à l'auto-école. Donc on espère que ce nouveau permis, enfin cette nouvelle réforme, facilitera cette tâche, quoi.
Et puis dernière info, peut-être la fin de la loi des 100 chevaux pour 2016, puisque en votant le nouveau règlement sur l'homologation des véhicules, le Parlement européen va mettre fin à la loi des 100 chevaux, une loi qui est presque une exception culturelle française, qui vise justement à limiter les motos à une puissance de 100 chevaux par bridage, par les constructeurs, etc. Une mesure qui a souvent été dont l'hypocrisie a souvent été dénoncée par FFMC en disant que ça n'a pas de réel sens finalement.
Bah écoute, oui, tout à fait. Hein. On est l'exception avec l'Inde, je crois. Mais bon, l'Inde n'a pas de grosse cylindrée. Nous, on est contre ce bridage, tout simplement parce que c'est une ineptie. Il faut savoir que moi, par exemple, je possédais un 1400 ZDR jusqu'à samedi. Il faut savoir que la moto est bridée à 106 chevaux, alors qu'elle en fait 200 en version libre, on va dire. et que la moto monte à, en vitesse de pointe à 250-260 km/h en version bridée et à 340 en version débridée. On n'a pas le droit d'aller ni à l'une ni à l'autre. Et la raison veut qu'il ne faut pas y aller d'ailleurs, de toute façon. Hein. Mais donc voilà, alors là, c'est quoi la différence ? Je ne vois pas. Le bridage n'a pas lieu d'être, en fait. C'est simplement, on peut imaginer une voiture de gros cylindrée en débranchant 4 cylindres sur un V8, quoi. Ça serait stupide. Parce que avoir une moto puissante, une grosse moto, ce n'est pas forcément pour la vitesse, c'est simplement pour avoir un agrément moteur, un petit peu comme l'automobiliste qui a la possibilité d'avoir une grosse voiture et qui a un gros moteur. Ce n'est pas forcément pour la vitesse, c'est aussi pour l'agrément.
Voilà, d'autant que aucune étude n'a jamais démontré de lien entre puissance et accidentalité, raison pour laquelle Bruxelles estime aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune raison de maintenir cette limitation qui empêche la libre circulation des véhicules. Cette loi des 100 chevaux, en plus d'être inefficace, a exposé les motards français à une précarité intolérable. En cas d'accident, les assureurs pouvant refuser de prendre en charge un sinistre occasionné avec une moto remise dans sa configuration d'origine. Là aussi, ça pouvait effectivement créer des problèmes entre guillemets collatéraux, quoi.
Voilà.
Donc le règlement de cette loi doit encore être adopté par le Conseil de l'Union pour devenir définitif et sera applicable à partir du 1er janvier 2016, ce qui laisse quand même encore un petit peu de temps. On retrouve toutes ces infos sur ffmc.asso.fr pour ce qui concerne la loi des 100 chevaux et puis tous les liens sur ffmc34.org. Jean-Michel, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie de nous
recevoir. À une prochaine fois, bien sur les ondes de Divergence. Et puis d'ici là,
avec un grand plaisir.
Bonne route. Un petit peu de musique à présent. Et puis on se retrouve tout de suite après pour parler musique. Out of gas, still burning.
Hey there.
Who, me?
Just a friendly neighborhood speed demon. I'm out to NASCAR, the fast car, to the last car, till there ain't no cars left. Let the gusts go by with enough dust flying around to make you cry, bite down and choke half near to death. I'm up here on your left. Sorry about that.
See, like you, I push a bucket.
I like to burn big.
Like you, I gotta cut all the bullshit out of my life to live.
So I tell them, move over, this road ain't big enough for you.
I'm flying like Knight Rider, they trying to keep up with their grandma outside.
Besides, maybe they steel belts and radios expired. Maybe they tired, maybe they odometer needs to be rewired or something.
Machine on the Motorway sur Divergence pour illustrer ce petit tour de moto virtuel. En vous précisant que la FFMC 34 compte à l'heure actuelle 9963 adhérents et leur objectif avant le 1er décembre de cette année, eh bien, c'est d'atteindre les 10 000. Donc si 37 d'entre vous eh bien, ont envie d'adhérer à la FFMC, qu'ils n'hésitent pas, ffmc34.org.